Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halud Mouni.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
C'est en réponse à la crise migratoire à laquelle l'Union européenne fait face que les chefs d'État de l'UE se réunissent actuellement en Belgique avec pour objectif d'endiguer rapidement les flux migratoires et protéger les frontières extérieures de l'UE. Réduire la migration illégale et préserver l'intégrité de l'espace Schengen est donc l'objectif du Conseil européen sur l'immigration qui se déroule actuellement à Bruxelles en Belgique. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous allons parler dans le grand dialogue de ce jeudi 20 octobre d'immigration, des causes, des conséquences, mais également de cette perception de l'opinion publique de ces pays d'accueil principalement européens. Pour ce faire, nous avons invité le docteur Fode Tandigoura, il est sociologue et enseignant à l'université de Bamako, Amédi Diarra, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de France, sera en ligne, Seydou Koulibaly de l'ADEME, Association pour la défense des immigrés maliens, il est ancien migrant, et enfin Andrea De Giorgio, journaliste freelance italien. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation, la mise en onde est assurée par Philippe Dambélé.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue. On parle de plus de 140 000 migrants arrivés en Italie l'année dernière, avec ses nombreuses pertes en vies humaines dans la Méditerranée. L'immigration clandestine semble être un moyen privilégié de réussite pour beaucoup d'Africains. Il faut toutefois souligner que certains Africains, comme ces nombreux Syriens, fuient des guerres ou des régimes dictatoriaux. Tous n'aspirent tout simplement qu'à un mieux vivre. Le Conseil européen invite la haute représentante et les États membres à être attentifs aux facteurs susceptibles d'entraîner des flux migratoires et à agir sur ces facteurs. Une mise en œuvre rapide des résolutions du sommet de la Valette de novembre 2015 a été demandée. Selon un rapport de juillet 2014 d'Amnesty International France, les conflits, la persécution ou la pauvreté sont à l'origine des départs forcés. Un petit nombre de personnes cherchent refuge et une vie meilleure en Europe. Mais les pays de l'Union européenne sont de plus en plus déterminés à les empêcher d'entrer. Je m'adresse d'abord à vous, Andrea De Giorgio. Vous êtes journaliste freelance italien. Quelle est aujourd'hui cette perception justement des Européens face au flux de migrants qui arrivent? Est-ce que l'opinion publique européenne, principalement italienne, puisque vous êtes italien, a l'impression que le pays ou l'Europe est envahie?
Sûrement, c'est ça la perception des gens en Italie. Je peux parler surtout de l'Italie, même si je vis ici au Mali depuis quelques années, mais de l'Europe en général. Parce que l'opinion publique est systématiquement bombardée des informations qui ne sont pas forcément vraies. Dans le sens que si on regarde les taux de migration actuellement, par exemple en Italie, c'est diminué sensiblement par rapport à l'année passée, mais on ne voit pas ce genre de nouvelles dans les médias italiens. Pourquoi? Selon moi, parce que il y a un jeu politique très important qui est en train de jouer sur ce sujet, et donc les politiciens européens en général et les Italiens en particulier sont en train de jouer sur ça, jouer sur le ventre de l'opinion publique pour avoir diriger les dialogues, diriger les débats qui est en train de passer en Europe sur ce sujet qui est très sensible aujourd'hui.
Merci beaucoup. Là, je m'adresse à Amédi Diarra. Vous, Amédi Diarra, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Est-ce que vous me recevez?
Oui.
Merci de partager ce plateau avec nous. Dites-moi, est-ce que vous avez justement cette perception en France, par exemple, que le pays est envahi par les immigrés principalement africains?
Le pays est envahi?
Par ces immigrés principalement africains. Est-ce qu'il y a cette perception des Français qu'ils sont envahis?
C'est la perception des gens qui ont une courte vue, c'est pas nouveau. Parce que il y a aussi des politiciens qui font peur aux populations et qui agitent le spectre de l'envahissement, des envahisseurs. C'est un peu vieux comme le monde parce que on sait que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu parce que des gens ont agité ce même discours, l'ont utilisé à outrance. Mais il y a aussi une autre phase de population en Europe. Uh-huh. Qui ne prête pas le frein à cette vision. Uh-huh. qui sont prêts. Quand on voit en Italie, en France, vous allez à Calais, c'est des Français qui se mobilisent pour accueillir, c'est des Français qui se mobilisent pour assurer la protection. C'est vrai que le Calais, ce n'est pas des conditions idéales. Uh-huh. Mais bon, voilà, vous avez aussi des femmes et des hommes qui sont prêts à aider ces migrants, à les accueillir, parce qu'ils savent qu'ils ne quittent pas de leur pays de gaieté de cœur.
Merci Abedi Diarra, restez avec nous pour la suite de cette émission. Cédric Koulibaly, vous êtes secrétaire général, si je ne me trompe pas, de l'ADEME, Association pour la défense des émigrés maliens. Vous êtes vous-même ancien migrant, vous avez vécu en France. Alors dites-moi, pourquoi a-t-on régulièrement ces flux de migrants africains, principalement maliens, qui arrivent en Europe?
Bon, ne va faire qu'un gars débarquer Bamanankana.
Ce serait une très bonne idée, mais on va essayer un peu avec le français pour nos auditeurs. On va essayer en français. D'accord. Merci de la compréhension.
D'accord. Bon, et ce que vous avez déduit, le problème des migrants en France avec le Malien, tu sais, le Malien est obligé de voyager obligatoirement. Pourquoi Malien obligé d'aller en France, en Italie, dans tous les pays du monde? Parce que si tu vois que le Mali aujourd'hui, vraiment, on a un problème de travail. On a un problème de travail aujourd'hui.
Donc il y a le chômage qui pousse les gens à partir.
Certainement, le chômage qui pousse des gens de partir, et puis il n'y a pas de pluie cassée, parce qu'on n'a pas eu de travail pour qu'on puisse nourrir les familles. On est obligé de partir en Europe. C'est obligatoirement. Sinon, si on a du travail ici, par exemple, on a des terres ici, on a beaucoup de terres en Mali ici, mais si on a quelqu'un qui peut nous défendre de travail, on ne bosse pas.
Parce qu'on a des terres ici. Si vous avez justement tout ce qu'il faut pour vivre au Mali, vous allez rester.
Exactement, il n'y a aucun problème.
Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir?
Bon, on ne peut pas poser de retourner au Mali aujourd'hui. Parce que pourquoi? Si vous retournez de venir ici, comment tu vas travailler? Comment tu vas trouver le travail? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas travailler où? Si vous retournez ici, tu vas devenir commencer à zéro à la base. Parce que moi, je vais le voyager, c'est le 21 passé, je suis parti en Maroc. Avec 17 pays là, on a fait une conférence, on a fait un débat en Maroc pendant 10 jours, le problème des migrants. Le problème des migrants. Le lac qui traverse, c'est d'aller en Italie, en Espagne, en Libye, on était à voir en tout ça. Parce que si tu vois, on était à voir les migrants qui sont là-bas, on te demandé pourquoi vous venez de rentrer en mer pour te tuer. Bon, il a dit, grand frère, mon père, on est obligé de tuer, on est obligé de mort à la mer. Parce que pourquoi? Le pays, on n'a rien là-bas. Il faut mieux qu'on meure à la mer, c'est mieux qu'on retourne au pays. Parce que si on est retourné au pays, ça revient à la même chose. On a fait rencontrer beaucoup de migrants à Tanza et à Rabat. Là, qui traversaient d'aller en Italie, là, qui traversaient d'aller en Espagne. On a travaillé le 20e parce qu'on avait 10 jours conférence là-bas avec 17 pays. Le problème des migrants.
Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Docteur Fodetan Digora, vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Bamako. Vous avez produit d'ailleurs une thèse justement sur ce phénomène de l'immigration. Aujourd'hui, quelles sont les zones de départ en général? Quels sont les pays qui produisent le plus grand nombre de candidats à l'immigration?
Actuellement, on ne peut pas dire que c'est en Afrique, vu les conflits qui se passent.
Non, on va dire les pays africains.
Bon, les pays africains, pour le cas spécifique de la France, que je connais très bien, eh bien, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, ce qu'on appelle le bassin du fleuve Sénégal. Ce sont ces zones-là qui produisent plus de migrants. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est avec la guerre qu'on les voit beaucoup plus en Europe. Donc, c'est principalement les pays du bassin du fleuve Sénégal. Et aussi, si on prend le cas de l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie et le Maroc. Pour le cas de la France. Mais je voudrais surtout préciser qu'il y a une criminalisation du phénomène migratoire en France et dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'on a transposé l'immigration dans le domaine politique.
D'ailleurs, on voit beaucoup de partis politiques qui en ont fait des arguments électoralistes. Hein. Il y a la Ligue du Nord en Italie, il y a le Die Republikaner en Allemagne.
Il y a une montée fulgurante de l'extrême droite en Europe.
Oui, absolument.
Des partis d'extrême droite.
Des partis d'extrême droite qui jouent sur cette fibre patriotique et qui fait peur aux Européens. Et sinon, les gens sont surpris quand on dit que la majeure partie de l'immigration malienne, par exemple, ça se passe en Afrique. Oui, les 80% c'est en Afrique, hein, ce n'est pas en Europe. Mm-hmm. Mais parce que c'est surmédiatisé, on sort à la télé les migrants.
C'est une immigration interafricaine qui est beaucoup plus développée en Afrique.
Oui, en Afrique qu'en Europe. Mais malgré tout, cela ne sort pas, ça ne saute pas aux yeux. Si on demande les gens en Europe, en France par exemple, ils ont ce sentiment effectivement d'être envahis. Mais c'est instrumenté, c'est construit, c'est le discours politique, l'effritement du niveau de vie, l'effritement du travail, le chômage, immigration et chômage, immigration et délinquance, immigration et effritement de conditions de vie. Donc tout ceci est construit. Mmh. Et ça fait peur effectivement aux citoyens parce que les votes, ça compte beaucoup. Il faut les protéger aussi. Donc, il y a ce phénomène-là qu'il faut quand même mettre en relation. Et le discours politique et la peur que cela a sur les citoyens.
Est-ce qu'il faut forcément aller en Europe justement pour avoir la belle vie? Est-ce qu'on ne peut pas justement rester en Afrique, rester dans nos différents pays et prospérer?
Bien sûr qu'on peut rester. D'ailleurs, je rappelle que le droit de bouger, c'est un droit fondamental en réalité. Donc les individus peuvent bouger de façon libre. C'est dans la charte des Nations Unies. Au temps où c'était libre, les gens ne s'installaient pas. Quand c'était libre, hein, le va-et-vient. Alors, mais il y a un idéal, il y a un mythe de l'Europe aussi entretenu par les migrants, justement, qui fait qu'on a l'impression que les gens qui vont en Europe s'enrichissent forcément par tous les moyens. Et les migrants entretiennent aussi ce mythe. Ils reviennent avec des valises neuves, des liasses de billets, voilà, des habits neufs. Et donc, ça donne l'impression. Et malheureusement, pour la région des Caraïbes, je précise que de plus en plus, l'école ne symbolise plus la réussite. La réussite, ce sont les frères qui sont partis en France, qui reviennent, qui construisent des centres de santé. Voilà, c'est eux la réussite. Et l'école n'est plus la réussite, malheureusement, dans ces zones de départ.
Merci, restez avec nous. Andrea De Giorgio, vous êtes journaliste freelance italien basé à Bamako. Dites-moi, est-ce qu'il y a énormément de pression de justement cette opinion publique sur les dirigeants européens? Parce que quand on entend la chancelière Merkel, qui était au Mali il y a encore moins de 10 jours, et qui promet aux Allemands d'être plus stricts par rapport justement à ce flux migratoire, est-ce qu'il y a énormément de pression sur ces dirigeants-là?
Je pense plutôt que, comme on venait de dire, que la pression c'est plutôt de médias qui sont en train d'instrumentaliser ce sujet et donc dirigé par les politiciens envers l'opinion publique. Par contre, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi une partie de l'opinion publique qui s'est moins médiatisée sûrement, mais qui met la pression sur les dirigeants pour accueillir beaucoup plus des Africains, dans le sens que on parle maintenant en Europe, dans l'Union européenne, on a vu Federica Mogherini, qui est italienne aussi, qui elle a parlé ça fait 2 jours sur le Migration Compact, donc toutes les mises, l'argent qui est mis sur le plateau par l'Union européenne, qui a déjà fait ça avec la Turquie, et on a vu avec quel résultat, donc avec maintenant la Turquie est en train de stopper tous les Afghans et les Syriens surtout, qui sont en train de prendre la route pour aller en Europe. Donc d'un côté on fait ça, de l'autre côté on utilise la distinction entre réfugiés comme les Syriens par exemple dans le cas de l'Allemagne surtout, et les immigrés économiques comme on appelle. Mais ça aussi c'est une politisation de ça, parce que en fait il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire qui est en train de fuir de la guerre on va les accueillir, et qui est en train de faire la migration, comme on disait, la migration circulaire. Quand la migration était libre, était circulaire, les gens partaient et revenaient. Mais maintenant, avec la criminalisation et tous ces les effets néfastes qu'on voit, on voit dans ça. Même l'opinion publique est très effrayée dans ce contexte, parce qu'il n'arrive plus à faire la pression et à exprimer leur naturelle envie de partage et de bienvenue envers les gens qui sont toujours venus en Europe. L'être humain est fait pour bouger comme les oiseaux ou les animaux. Donc, qu'est-ce qu'on vit maintenant aujourd'hui, c'est vraiment une situation pénible, parce que tout ça retombe sur la condition des migrants dans la sous-région. On voit souvent en Europe, on parle des migrants quand ils arrivent dans la mer Méditerranée. Donc on les voit en tant que réfugiés, que demandeurs d'asile, ou bien comme des victimes des voyages, donc des gens qui meurent dans la mer. Mais il y a plein de gens qui meurent dans le désert aussi. Il y a plein de gens plein des Africains aussi qui profitent sur le dos de ces gens. Ils demandent beaucoup d'argent pour faire ce voyage. Mm-hmm. Et donc, tous les politiciens qui sont en train de parler de ça ou de décider des fonds, d'envoyer des millions d'euros, on parle de 2 milliards de 300 millions d'euros qui vont arriver dans la région du Sahel. À cause de ça, et il n'a qu'à penser à ça.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. Nous parlons d'immigration et des nouvelles mesures de l'UO qui visent l'Afrique. Comme invité, nous avons Dr Fodé Tandigoura, sociologue et enseignant d'université de Bamako. Amédi Diarra, le président du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, il est au téléphone. Seydou Koulibaly de l'ADEME, l'Association pour la Défense des Immigrés Maliens. Également avec nous, Andrea De Giorgio, journaliste freelance italien, basé à Bamako. Merci, messieurs, de rester connectés pour cette émission-là. Aujourd'hui, Amédi Diarra, je m'adresse à vous. Vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Dites-moi, moi, quand je vois, par exemple, une organisation comme la CCPIA qui s'occupe justement des cas de dominés en France, ça me montre quand même que même en France, tout n'est pas rose. Pourquoi forcément les gens veulent y aller? Est-ce que la vie est rose en France, par exemple?
Non, la vie n'est pas rose en France. Sauf que il ne faut pas oublier que nous sommes dans la mondialisation. Qu'est-ce que ça induit? Vous regardez la télé, les chaînes qui 24 heures sur 24, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent tout ce qui est presque, on peut dire, les 80% des images, ils montrent l'Occident. L'Occident comme c'est beau, l'Occident c'est moderne, l'Occident, etc., etc. Mm-hmm. Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher un enfant, on ne peut pas empêcher un jeune de regarder la télé et de rêver. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a en tête? Ces images-là qui sont là, c'est les images qui viennent des États-Unis, de la France ou d'autres pays. Mmh. Eh ben, moi aussi, il faut que j'y aille. Et vous retiendrez que aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui sont extraordinaires. Mmh. Même le pauvre a un téléphone portable au Mali. Mmh. Même le pauvre, celui qui n'a pas de fils, n'a pas de fille en France ou aux États-Unis ou ailleurs, mm-hmm. il a quand même un téléphone portable. Mm-hmm. Un téléphone portable, c'est pour quoi? C'est pour communiquer, c'est pour un certain nombre de choses, mm-hmm. mais qui ne sont pas indispensables, par exemple pour manger, pour boire, pour etc. Mm-hmm. Donc c'est ce phénomène-là aujourd'hui. Mmh. Contre lesquels on n'a pas de grands moyens, c'est les mêmes qui ne veulent pas que les gens aillent chez eux. Mmh. Donc le monde occidental qui déverse qu'il consomme ou qu'il ne veut pas consommer, qu'il le déverse en Afrique, pour l'avoir, il faut de l'argent. Et bien, ça pousse les gens à imaginer que là où, d'où viennent ces choses-là, là-bas, il y a beaucoup de choses, il y a des richesses. C'est vrai, il y a des richesses, mais ce n'est pas comme le pensent les autres avant de venir en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Mm-hmm. Ça, c'est la cause même du départ des gens. L'autre chose, c'est le phénomène indépendant de la volonté des gens. Ça peut être la guerre, ça peut être les catastrophes naturelles. Mmh. Aujourd'hui, là, c'est vrai, le terrain de prédilection pour l'immigration, en tous les cas, l'immigration africaine, c'est l'Afrique. Il y a 10 à 20 fois plus d'Africains qui immigrent en Afrique, entre les différents pays, que l'extérieur de l'Afrique.
Merci. Amédi, vous m'entendez? Restez avec nous pour d'autres questions. On reviendra le temps de faire réagir Seydou Coulibaly de l'Association pour la défense des immigrés maliens. Seydou, alors dites-moi, est-ce que il n'y a pas de possibilité justement pour quelqu'un comme vous de rester au Mali? Parce que est-ce que ça ne peut pas avoir justement des conséquences sur le Mali si tout le monde s'en va?
C'est très bien. On a des possibilités de rester au Mali. Si on a des moyens. Si on a des moyens, on est obligé de rester au Mali. Et puis, il y a du travail au Mali ici. Il y a du travail au Mali ici. Il y a des terres au Mali ici. Avant d'aller mourir aux terres, à la mer, ou avant d'aller mourir à la désert, si l'État il a retourné ton dos pour la population des Maliens, on ne bouge plus. Hein? Parce qu'on a travail.
Donc, s'il y a suffisamment d'investissements aujourd'hui,
exactement, on a travaillé ici. On a beaucoup de travail ici. On a beaucoup de terres ici. On a beaucoup de terres au Mali ici. On a beaucoup de terres au Mali ici. Pourquoi l'État ne peut pas ouvrir le travail pour l'immigration, pour les populations des Maliens? C'est pour cela qu'on bouge. Sinon, il y a le terrain, il y a du travail aussi au Mali ici. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de travail, c'est faux, il y a du travail au Mali ici. Mais c'est l'État qui. C'est l'État qui.
Donc, vous pensez que la responsabilité aujourd'hui incombe à l'État malien?
C'est très clair net. C'est très clair. Si on a travaillé, c'est pour qu'on ne bouge pas. Hein? Parce que ce n'est pas la peine d'aller mourir à la terre de comment ça fait, deux herbes et la mer. Or que si quelqu'un, si un Malien qui a travaillé ici, qu'il a gagné même à 75 000 francs par mois aujourd'hui, Europe aujourd'hui, c'est très très difficile. Très très difficile. Si tu pars au foyer aujourd'hui, tu n'auras même pas de l'eau à boire. Tu n'as même pas de manger. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas bon.
Le docteur l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui. Est-ce que justement ces facteurs-là doivent encourager encore les départs?
Non, c'est obligé parce que il est obligé d'encourager d'aller. Si on a du travail, c'est ça que moi j'ai dit toujours. Si on a travail, pourquoi le peuple malien ne peut pas résister? Si tu vois qu'on construit les centres de santé au Mali, et les barrages, et le n'importe quoi, de nourrir des familles, c'est à cause des migrations. Si on n'est pas immigration, on peut pas. Le Mali, ça devient foutu maintenant là.
Merci.
Ça c'est vrai. Si on n'y a pas d'immigration, le Mali, c'est devenu foutu maintenant. C'est fini.
Merci.
Mais
beaucoup.
Si on a travaillé, pourquoi on ne reste pas? Il y a travail ici. Il y a travail au Mali.
Merci beaucoup, docteur Foudié Tandigora. Vous êtes sociologue et enseignant à l'université de Bamako. Quelles peuvent être certaines des conséquences justement sur des pays comme le Mali?
Bon, déjà.
Des départs, parce qu'on voit quand même un certain nombre de candidats au départ.
Oui, il y en a plein. Ce qui est déplorable, c'est quand même le départ des jeunes, hein, des bras valides de plus en plus, surtout des diplômés, des gens qui s'estiment n'avoir pas de perspective à l'issue des études. Et donc, quand on sait que l'État investit quand même beaucoup de millions pour former un étudiant, par exemple, jusqu'à la fin du cycle, et il n'y a plus de bagages pour aller. Donc, c'est une perte énorme pour l'État, mais c'est aussi une perte pour l'économie de façon générale, parce que c'est là un peu la fuite des bras valides. Et donc, l'une des premières conséquences, c'est d'abord, c'est l'effritement à long terme de la production, qu'il s'agisse de la production domestique de la famille, comme c'est le cas dans la région des Kayes. Il n'y a plus de gens pour cultiver. Il y a très souvent des travailleurs saisonniers qui arrivent, qu'on emploie, payés par l'argent de la migration, parce qu'il n'y a plus de jeunes.
Justement, on a vu dans le cas de Kayes, par exemple, qu'il y a des villages où on a complètement, pour un pays avec autant de jeunes, on a complètement des villages qui se vident et il n'y a plus que les anciens qui restent au village.
Oui, absolument, parce que bon, et il faut...
Est-ce qu'un pays peut se développer comme ça?
Pas du tout. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sur la base de l'immigration. Les Mexicains l'ont fait pour aller aux États-Unis, mais de plus en plus, ils font le chemin inverse pour investir, etc. Mais c'est-à-dire que l'immigration a toujours été une solution temporaire. En réalité, ça a été une solution temporaire. Les premiers qui sont partis, qui sont issus du bassin du fleuve Sénégal, sont partis dans la grande majorité entre 1974 et 1986. Avant, ils partaient, bien sûr, mais la grande période de sécheresse a fait que les gens sont partis. Mais c'est temporaire. Ce n'est pas fait pour que les gens restent continuellement à faire de l'immigration un mode de vie. Hein? Il arrivera un moment où ça ne peut plus marcher. Et on est à ce niveau-là où les gens sont entassés dans leurs foyers. et il n'y a même pas de boulot. Tu trouves quelqu'un, ça lui fait 2 ans, il est là, il ne travaille pas. L'intérêt de la migration, ce n'est pas ça, c'est quand même de pouvoir travailler et rapatrier de l'argent. Mmh. Mais maintenant, le système migratoire est même en voie d'effritement parce que, justement, le problème de l'emploi se pose en Europe. Et c'est fait que, bon, est-ce que les gens doivent continuer de partir? Eh bien, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit la peine pour le cas de la France, quand même, où les foyers sont bombés. De migrants oisifs qui ne travaillent pas.
Merci. Andrea De Giorgio, vous êtes journaliste italien freelance basé à Bamako. L'Europe a quand même une population vieillissante et a besoin de main-d'œuvre. Et on a aujourd'hui un potentiel. Quels sont aujourd'hui les recours pour aller vers une immigration légale?
C'est bien ça le point, selon moi. L'Europe a extrêmement besoin de main-d'œuvre. Mais d'un autre côté, si on continue à maintenir la question de migration dans les termes de sécurité et dans les termes donc de la loi, hors de la loi, mm-hmm. on pourra avoir des main-d'œuvre esclaves, qui deviennent des esclaves. Parce qu'on le sait bien, par exemple, je parle de mon pays d'origine, en Italie, les champs, les agriculteurs qui cultivent les tomates mm-hmm. sont surtout des travailleurs africains. Qui sont là parce que d'un côté, il n'y en a plus des Italiens qui veulent faire ce travail et ils veulent faire pour l'argent que gagne un Africain. Mm-hmm. Et donc, il y a aussi un système de criminel mm-hmm. là-bas pour employer les gens parce que les immigrés qui viennent là-bas, ils partent là-bas pour travailler. Donc, c'est ça qu'ils cherchent. Mais ils sont extrêmement mal payés. Ils n'ont aucun droit. Même si ça, c'est un paradoxe parce que j'ai rencontré plein de jeunes ici au Mali ou dans la sous-région qui te disent je pars là-bas parce que j'ai vu à la télé ou sur internet que là-bas il y a les droits. Donc c'est pas seulement une question, souvent c'est pas seulement une question économique, mais c'est aussi une question d'idéal. Mmh. Donc ils ont l'idée qu'en Europe il peut travailler, trouver du travail et sans être exploité. Donc mais si on regarde la réalité maintenant, c'est pas ça. Et donc on a des paradoxes extrêmes parce que comme disait notre confrère depuis la France, je suis tout à fait d'accord avec son approche. On est dans la mondialisation. Elle fait quoi aujourd'hui? Elle crée des contresens incroyables, comme par exemple les tomates. Mmh. Au Ghana, il y avait plein de cultivations de tomates. Mmh. Et les gens arrêtent de cultiver les tomates là-bas pour aller en Italie. Il y a plein de Ghanéens en Italie. Mmh. Il y a plein de Ghanéens qui cultivent les tomates là-bas. Et les tomates cultivées en Italie, ça, il est vendu où? Il est vendu en Afrique de l'Ouest. Donc on a des usines italiennes qui font les tomates sur les sols italiens. Ils n'ont plus de gens, de bras valides pour cultiver ça. Ils prennent pour payer moins un agriculteur italien. Ils prennent des agriculteurs qui sont des agriculteurs qui amènent aussi leur savoir-faire, tout un bagage de connaissances mm-hmm. et qui est en train de cultiver les tomates en Italie qui après est revendu ici. Donc au Ghana, on ne produit plus les tomates parce qu'il n'y a plus de gens. Mais on achète les tomates de l'Italie.
Merci beaucoup pour cette réflexion très très intéressante. À présent, on va écouter justement cette capsule, un papier de Cheikh Oumar Sako du studio Tamani qui nous parle justement de cette réunion de Bruxelles de l'Union européenne sur l'immigration.
Au cours du Conseil, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE vont dire qu'ils veulent des résultats mesurables dans la prévention de l'immigration illégale et le retour des migrants en situation irrégulière. Pour cela, ils décideront de créer et de mettre en œuvre les incitations nécessaires. Derrière le langage diplomatique se profile la menace d'une réduction de l'aide au développement et d'une baisse des échanges commerciaux avec les pays qui ne coopéreront pas. Les autorités européennes veulent mettre en place des mesures plus strictes pour identifier les migrants illégaux et les renvoyer en Afrique par avion avant les prochains grands départs des côtes africaines au printemps prochain. Maniant aussi la carotte, les dirigeants des 28 pays devraient en parallèle proposer une aide accrue et un traitement commercial préférentiel aux États souhaitant coopérer. Cette nouvelle approche, proposée à l'origine par l'Italie, où débarquent la plupart des réfugiés en provenance d'Afrique, vise au départ 5 pays, le Nigeria, le Niger, le Sénégal, l'Éthiopie et le Mali.
Amadi Diarra, vous êtes le haut conseil, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Vous avez entendu tout à l'heure cette intervention. L'Union européenne s'apprête à prendre des mesures drastiques encore. La politique de la carotte et du bâton. Alors, est-ce que l'aide à la coopération ou l'aide au développement consécutive justement au flux de migrants de ces pays-là, est-ce que ça vous paraît réalisable? Est-ce que c'est sensé comme solution?
Non, l'aide au développement liée à la question de l'immigration n'est pas efficace. D'ailleurs, on l'a vu les années précédentes, quand le précédent gouvernement a lié les deux. Quand on a fait le compte, il n'y a même pas eu le 20e de ce qu'il espérait en termes de résultats bas. Mmh. C'est pour dire quoi? C'est que les mesures coercitives n'ont jamais résolu de grands problèmes comme celui de la migration. Les causes, elles sont multiples, elles sont profondes. Mmh. Vous vous souvenez, au début de la crise syrienne, la crise dans d'autres pays, mmh. Angela Merkel était la première à dire qu'il faut être sévère, il faut tout fermer. Mmh. Il a fallu que le verrou sorte pour que tout le monde se déverse et qu'après, elle prenne conscience et qu'elle recule. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, c'est l'Allemagne, le pays qui a fait le maximum. Elle
a été courageuse. Aujourd'hui, en Europe, il y a cette différenciation quand même entre ces Syriens qu'on appelle réfugiés et ces Africains qu'on appelle immigrés illégaux, puisque même on ne fait pas la différence entre les Africains qui fuient du fait de la guerre, qui peuvent être dans la même situation que les Syriens. Il y a aujourd'hui cette grande différence-là.
Parce qu'on ne veut pas regarder la réalité, parce que quand on pense que quand on vient d'Afrique, par exemple, quelqu'un qui est américain, qui fuit la guerre, ou il y a d'autres pays hein, qui fuit la guerre, on va dire on n'est pas très sûr parce que c'est la même frontière que tel autre pays, les communautés, vous prenez, il y a des similitudes entre les différentes communautés, est-ce qu'ils ne trichent pas, etc. Tous ceux qui viennent d'Afrique par rapport à des problèmes comme celui-là, eh ben, le traitement n'est pas le même que le reste du monde. Ça, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne peut prendre les mesures sur le papier, les mesures qu'elle veut, mais tout ce que ça peut produire, c'est des morts. Parce qu'on l'a vu, lorsque la situation et la situation était à son paroxysme, c'était toutes les semaines des bateaux qui chaviraient, des gens qui mouraient par centaines.
Merci Amadi Diarra. Restez connectés, on va revenir juste après quelques secondes de pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Merci de rester connecté au studio Tamani. On est en train de parler de l'immigration, des nouvelles mesures de l'UE qui visent l'Afrique, entre autres. Alors, Amadi Diarra, vous étiez sur une lancée, justement.
Alors, c'était pour dire, aujourd'hui, la meilleure coopération, c'est de voir les problèmes à la base. Et pour cela, ce n'est pas seulement l'État qui peut trouver les meilleures solutions. Parce que de toute façon, les États africains n'ont pas de moyens, ne peuvent pas répondre à toutes les attentes des populations. D'ailleurs, il n'y a aucun pays où c'est l'État qui résout l'ensemble des problèmes qui sont liés au développement. Donc, nous, aujourd'hui, dans l'immigration, nous avons des expériences. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de choses qui ont porté leurs fruits. Il est important, il est même indispensable que les associations des migrants qui ont démontré leur efficacité, leur preuve, soient associées à des sujets d'importance capitale tels que le développement du pays. Moi, je prends un exemple, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, depuis 2012, gère un programme. Ce programme a apporté au Mali, par le biais du Haut Conseil des Maliens de France, jusqu'à 2014, 170 millions de francs CFA pour le financement des projets. Et ces projets sont identifiés, sont connus et ont été mis en œuvre et ont apporté des solutions. Bon, des solutions, bien sûr, des petites solutions à des problèmes.
Des petites et moyennes entreprises en général.
Des vraies solutions. Des vraies solutions. Alors, il est important que les États réfléchissent par rapport à ça, comment associer les gens qui ont déjà, qui ont déjà une expertise dans un domaine qui est le développement réel à la base.
Merci beaucoup, Amédi Diarra. Restez connectés avec nous. Sédou Koulibaly, vous êtes le représentant de l'Association pour la défense des immigrés au Mali. Dites-moi, aujourd'hui, quelle est la solution, justement, pour que les Maliens puissent rester et prospérer au Mali? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Très bien, il y a des solutions. Mais il n'y a pas de solution sans travail. Les solutions, c'est le travail.
Alors, comment on peut faire justement on ne peut pas tous nous asseoir et attendre que l'État nous donne tout aussi.
Non, pas.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Au niveau de l'ADEME, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme solution pour justement permettre ou faciliter la vie des Maliens ou à ces anciens immigrés qui reviennent?
Les Maliens qui sont aujourd'hui au Mali, moi, je suis l'ancien immigré en France, parce que je suis rentré en France depuis les années 78. Jusqu'en 2003, je suis en France. Les difficultés qui sont là-bas, moi, je connais. Mais depuis que moi, je venais au Mali aujourd'hui, moi, je sais que bien que le travail qu'on fait en France, ce qu'on a fait ici, le travail qu'on fait en Italie, ce qu'on a travaillé ici, le travail qu'on fait en Maroc, ce qu'on a fait ici, le pays, ça va devenir développé.
Ouais.
Mais il faut que l'oral, parce que la terre, le peuple ne peut pas travailler. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la machine. Comment tu vas travailler?
Donc aujourd'hui, on va dire que dans ces pays-là, on vous offre justement les moyens de travailler. Vous n'avez pas ça.
Voilà, sur tout le travail qu'on fait ailleurs, on peut faire au Mali ici. Tout, le sardinias, comme le monsieur vient de dire, le tomate, on a des terres. Mais si on a travaillé ici comme ça au Mali, c'est pas la peine, on ne bouge pas. On peut rester au pays. Parce que maintenant, le monde maintenant, c'est très difficile. Très, très difficile. Tant qu'au Mali aujourd'hui, si l'État ouvre le travail, on reste au Mali, on travaille sans problème.
D'accord.
Sans problème.
Merci beaucoup.
On reste au travail au Mali sans problème.
Merci beaucoup, Sédou. Voilà. Docteur Tandigora, le Mali, contrairement à d'autres pays africains, a quand même refusé de signer ce fameux accord de reconduite à la frontière. C'était sous le président Atété. Est-ce que vous pensez qu'on a bien fait?
Mais il était contraint de ne pas signer en réalité, parce qu'il y a eu une mobilisation massive des associations de migrants en France. Il y a eu même des marches. Donc, on ne pouvait pas le faire parce que, tout simplement, le Mali compte énormément sur l'argent rapatrié par la migration de travail. Savez-vous que ça dépasse l'aide au développement que la France accorde, par exemple, au Mali?
Donc, ce que ces migrants, illégaux ou pas, ramènent dans le pays est plus conséquent que ce qu'on nous donne à l'aide au développement?
Oui, absolument. Donc, vous voyez que le Mali... Alors, signer l'accord de réadmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on signe, ça veut dire que même un Malien, on peut le rapatrier au Sénégal, n'importe où. Donc, après, il va se débrouiller. Donc, le Mali a refusé, ça nous a coûté beaucoup cher en réalité. Il y avait des projets qui n'ont plus été renouvelés. Par exemple, le CIGEM, je parle par exemple du CIGEM, le Centre d'information et de gestion des migrations. Il y a d'autres projets qui n'ont plus été renouvelés. Mais je pense que nos autorités se sont rendues compte de la complexité du problème et se sont abstenues de signer les accords de réadmission. Bon, il y a eu des sanctions, bien sûr.
Merci, docteur. Andrea De Giorgio, vous êtes journaliste italien basé au Mali. Dites-moi, le sommet de la Valette sur l'immigration, qui a quand même réuni tous ces chefs d'État et de gouvernement européens et africains, a dit en son temps vouloir renforcer cette coopération et relever les défis que présente la migration, mais exploiter également les possibilités qu'elle offre. Jusqu'ici, ici, ça a été un discours. Où est-ce qu'elle est, cette aide promise? Est-ce qu'il y a eu un déblocage de fonds, justement, pour permettre à des pays comme le Mali, comme Koulibaly l'a dit, une aide au développement conséquente pour que les candidats à l'immigration puissent rester et avoir des options et des alternatives chez eux?
Dès les informations qu'on a aujourd'hui, les fonds ne sont pas encore été débloqués, mais ils vont être débloqués bientôt. Mais selon moi, c'est intéressant de débattre sur comment ces fonds vont être utilisés, par quelle ONG internationale, locale, et surtout, de mon expérience personnelle, je pense que quand beaucoup d'argent arrive dans un pays, c'est pas vraiment la solution pour un développement durable de ce pays. Je le souhaite beaucoup au Mali, c'est mon pays d'adoption aussi, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant réfléchir sur le fait que, par exemple, dans la région de Kayes, on a parlé beaucoup de la région de Kayes parce qu'ils produisent les 90%, si ce n'est pas plus que ça, des migrants maliens en Europe maintenant. Mmh. Et là-bas, la France a eu un programme d'aide au développement durable et local depuis les années 70, donc depuis presque l'indépendance de ce pays.
Le docteur l'a dit tout à l'heure, l'aide au développement, l'argent apporté par les migrants dépasse justement l'aide au développement. Ce n'est pas de nature à encourager.
Et surtout, est utilisé en manière différente, parce que c'est utilisé par les communautés qui connaissent très bien leurs besoins. Mm-hmm. Si on part dans la région de Cayes aujourd'hui, on a fait des recherches, on a fait des reportages, même à montrer en Italie, en Europe, mm-hmm. depuis là-bas, pour mm-hmm. montrer, les pays de départ et les pays de transit. Si on part là-bas, on ne voit pas des puits ou des maraîchages ou des écoles ou des centres de formation financés par la France. On les voit, mais on les voit très peu par rapport à tout l'argent qui a été injecté dans la première région du Mali. On voit plutôt, comme on venait de dire le professeur, on voit plutôt des puits et des centres de formation, des écoles mm-hmm. construits par les remises de cet immigrant. Donc, c'est important commencer un débat véritable, plus serein et plus, je peux dire, vrai sur cette question. Et aussi, les États de départ et de transit, il faut qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils n'acceptent pas seulement en manière passive les bâtons de l'Europe, parce qu'il est en train de promettre de l'argent, mm-hmm. mais qu'ils prennent en main leur propre destin et commencent à s'élever pour les droits des migrants aussi.
Merci beaucoup. Amadi Diarra, vous êtes président du Haut Conseil des Maliens de France. Est-ce qu'il est possible ou même envisageable de stopper aujourd'hui les départs?
Non, à mon avis, personne ne peut stopper le départ. Peut-être le départ peut diminuer lorsque les conditions le permettent. Et pour que les conditions le permettent, il faut que les personnes volontairement ne soient pas poussées par un phénomène quelconque. Mm-hmm. Parce que même les pays développés, les gens partent. Les statistiques le démontrent, combien de Français depuis quelques temps sont immigrés en Angleterre et d'autres pays, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que tout le monde, tous les acteurs privés, les acteurs publics, s'assoient et réfléchissent à comment on peut créer les conditions d'une vie meilleure dans les lieux où on est. Et c'est la condition pour que les gens aient le choix de partir ou de rester. Mmh. Parce que on peut tout décréter sur le papier, mmh. mais l'être humain, une fois qu'elle est poussée, une fois qu'elle est dans une condition qui n'est pas favorable à sa vie, il arrivera à trouver les moyens de s'échapper. Voilà. Mmh. Même s'il y a le fusil à la tempe ou il y a les tanks devant ou les chars, mmh. Rien ne les empêchera. La preuve, c'est la mer la plus dangereuse, la plus grande, mmh. ça ne les retient pas. Mais aujourd'hui, la réflexion...
Le désert d'ailleurs avant la mer.
Ni le désert ni la mer n'arrivent à arrêter les gens. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de potentialités en Afrique, pas seulement au Mali, mais on va parler du cas malien. Mmh. Il y a des potentialités au Mali. Il faut que les gens arrivent à... Le Mali est ingénieux. On est capable de créer de rien.
Monsieur Koulibaly l'a dit, est-ce qu'il y a une véritable politique de l'État justement pour appuyer cette ingéniosité malienne, par exemple? Allô, Amadi Diarra, vous êtes avec nous?
Oui.
Est-ce qu'il y a une véritable politique de l'État justement, en deux mots, hein, on est presque au terme de cette émission, est-ce qu'il y a une véritable politique de l'État pour accompagner justement cette ingéniosité malienne?
Bon, je pense que il y a des choses qui sont en train de s'initier. Il faut voir maintenant à moyen et long terme qu'est-ce que ça peut donner. Bon, nous, en tant que migrants, nous ne sommes pas associés tel qu'on le souhaite. Nous avons des idées, nous avons des potentialités, nous sommes prêts à nous investir, mais faut-il que nous ayons l'espace nécessaire, pas seulement dans les discours ou pas seulement sur le papier, mais dans la réalité.
Merci beaucoup Amédi Diarra. Ceci met donc un terme à l'émission d'aujourd'hui. Je vous signale qu'on a invité le ministère des Maliens de l'Extérieur. Faute de calendrier, ils n'ont malheureusement pas pu être là. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Il s'agit de Dr Fodé Tandigoura, sociologue et enseignant, Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, Sédou Koulibaly de l'ADEM, Association pour la Défense des Immigrés Maliens, Andrea De Giorgio, journaliste freelance italien. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Maharan Diallo, mise en onde par Fili Dambélé, Petting Diarra était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadié Touré. À demain pour une autre émission.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.